Eh bien voilà, donc comme promis, nous revoici pour Tribune Foot. On l'a dit, dernier numéro pour cette saison. On a eu beaucoup d'invités au cours de nos émissions. Alors on va finir, allez, avec deux clubs voisins qui se connaissent remarquablement bien, à savoir d'abord le FC Rambouillet, emmené par Patrick Filière. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Bonne fête des papas d'abord. Hein.
Ouais, c'est vrai, c'est super.
Ouais.
C'est notre fête aujourd'hui.
Ah ouais.
C'est notre fête tous les jours, mais plus particulièrement aujourd'hui, effectivement.
Ouais. Alors comment s'est passée cette saison? Même chose que pour le rugby, comment ça s'est passé d'une manière générale? Un présent satisfait, heureux?
Oui, oui, on a eu l'Assemblée Générale la semaine dernière, donc effectivement, on a, comme le disait notre secrétaire, on a depuis 10 ans battu notre quantitatif au niveau, au niveau licencié, puisqu'on est arrivé à 447 licenciés au niveau du club. Donc ça a été très intéressant. On a eu effectivement relativement, on a relativement bien géré, je veux dire, l'ensemble des groupes dans les différentes compétitions, donc effectivement du plus petit, du débutant chez nous jusqu'au vétéran, et c'était très intéressant parce qu'en fin de compte les éducateurs ont bien répondu présent, les parents se sont bien investis aussi, nous ont bien encadrés, bien aidés, et ça il faut les remercier plus que tout, parce que je veux dire, s'ils n'avaient pas été là cette saison, on aurait été peut-être un petit peu dans la panade.
Pourquoi c'est pas toujours la garderie hein.
Non, c'est surtout pas la garderie, et ça devient de moins en moins la garderie, parce que malgré tout, il y a énormément de parents maintenant qui restent, hein, justement, comme le disait le rugby tout à l'heure, j'entendais, là, il est évident que, bon, si les parents sont pas là, bon, et s'ils s'investissent pas, il y a rien qui se fait, quoi, ça c'est clair.
Vous étiez combien cette année de licenciés dans le club ?
447.
Ça veut dire qu'il y a eu aussi un effet mondial, comme dans tous les clubs de foot de la région et de France.
Oui, il y a eu, c'est évident, il y a eu l'effet mondial, puisque le district, la fédération a effectivement enregistré des chiffres un petit peu élevés dans beaucoup de catégories. Mais bon, un effet pas si fort que ça au niveau de la Coupe du Monde, parce que, je veux dire, malgré tout, on a retrouvé dans toutes les catégories, parce que si vraiment on avait eu un effet Coupe du Monde, on aurait eu beaucoup de débutants, énormément de débutants, des gamins qui ne savaient pas jouer au foot et qui viendraient comme ça pour porter le maillot et courir sur le terrain. Là, on a eu dans toutes les catégories, en fin de compte, donc là, c'était intéressant.
La tranche d'âge a été de quel âge, finalement? Elle se répartissait comment?
Nous, on commence le foot à 7 ans, donc à 7 ans. On peut même le commencer à 6, c'est vrai que 6 ans, on peut venir aussi en débutant au foot, puisque la Fédé l'autorise. Mais 7 ans, c'est bien, parce que ça permet de rentrer en CP, d'être en CP et de commencer également le foot. Donc je pense que c'est plus intéressant pour les parents, même si on a, comme tous les ans, au moment du forum, des parents qui viennent avec des enfants de 5 ans et demi, voire des fois 4 ans. À nous dire, il veut faire du foot, quoi. Ça, c'est marrant, mais malheureusement, on n'a pas le droit de les prendre.
Alors, il y avait combien d'équipes engagées dans les différentes compétitions, dans les différentes tranches d'âge
Alors, on a des équipes engagées dans les compétitions à partir des catégories 13 ans, puisqu'on a 2 13 ans, 2 15 ans, 1 18, 2 seniors et 2 vétérans. Et tout ce qui est en dessous des 13 ans, en fin de compte, ce sont les Benjamins, les Poussins et les débutants, qui là regroupent une quantité de jeunes, en fin de compte, avec des équipes en fonction du quota. C'est-à-dire que si on a de quoi faire 4 équipes, on fait 4 équipes en Benjamin. Si on n'en a pas, eh ben on va faire 3. Et si on n'en a pas, on va en faire que 2. Donc cette année, on a eu la chance d'avoir 3 équipes Benjamin, 4 équipes Poussin et puis 65 débutants. Rien que dans cette catégorie-là. Donc c'est vrai que ça nous a fait un cheptel hyper intéressant à gérer tout au long de la semaine, tous les soirs, sur le site du Raciné du Vieux-Moulin. C'est clair.
Ouais, donc ça veut dire que des créneaux pleins toute la semaine, quoi. Du lundi au vendredi, vous avez entraînement.
Du lundi au dimanche.
Au dimanche, pour les matchs, ouais.
Du lundi au dimanche, on est sur les terrains et tous les soirs, effectivement, on est sur le Raciné et puis sur le Vieux-Moulin, malgré des dispositions des fois techniques et de locaux qui ne nous permettent pas d'être forcément présents où on voudrait, mais l'avenir va aller dans notre sens, donc on va faire en sorte que ça s'améliore bientôt, de façon à pouvoir effectivement accepter ces enfants et leur proposer toutes les installations dignes de ce nom avec des locaux adéquats.
Oui, je crois que c'est en bonne voie d'ailleurs, il faut l'espérer. Le rugby comme vous allez avoir des améliorations au niveau des vestiaires, des tribunes, entre autres.
Il n'y a pas que le rugby et le foot,
il y a l'athlé, une nouvelle piste,
toutes les associations qui sont représentées au Vieux-Moulin qui ont besoin de locaux, parce que c'est pas le tout de dire il y a le foot et le rugby, mais c'est pas que pour nous, quoi. C'est vraiment l'ensemble des sportifs du Vieux-Moulin qui a besoin de ces locaux pour pouvoir effectivement être présent sur ce site-là et proposer à ses adhérents de pouvoir utiliser ces installations, quoi, qui sont hyper importantes.
Oui, bien sûr. Donc, on l'a dit, pour les équipes donc engagées dans les différentes compétitions, d'où viennent vos jeunes, d'une manière générale? Ils viennent pas que de Rambouillet, quand même.
Non, c'est beaucoup les petites communes aux alentours. Hein. C'est vrai qu'on a très peu de gamins qui viennent de Ré-Loire. Quoi qu'on a eu quelques enfants d'Épernon et de Galardon, mais ils sont très très peu. Mais sinon, effectivement, c'est toutes les petites communes aux alentours. Hein. C'est Auffargis, c'est le Perret aussi un petit peu, c'est les Essarts aussi un petit peu également. On a eu des enfants des Essarts cette année. Et puis, Orsemont, Orphin, tout ce qui gravite autour de Rambouillet, effectivement.
Mmh. Pougny. Alors, ouais. Même question que pour le rugby, est-ce qu'un jour, un grand club du Sud, Yvelines, sur Rambouillet, en foot, c'est possible, allant plus loin encore et allant toucher l'Eure-et-Loire?
Non, ça n'a rien à voir avec le rugby parce que malheureusement.
Il y a des clubs partout que
voilà,
le rugby, c'est pas ça.
Voilà, tout à fait. Je veux dire, partout, nous, on a effectivement. Ouais. Alors, c'est bien et c'est pas bien, mais c'est vrai que dans chaque commune, il y a pratiquement un club de foot. Mm-hmm. Avec des structures ou pas de structures, ou avec un peu de moyens ou très peu de moyens. Donc, chacun veut faire effectivement sa petite équipe. Alors, ça a du bon et du mauvais parce qu'effectivement, les éducateurs sont peut-être présents pour être là, mais ils n'ont pas forcément les diplômes, ils n'ont pas forcément les connaissances. Et, mmh. et malheureusement, ils vont dans des choses qui vont déformer plutôt que former. Mmh. Donc, ça, bon, nous, on essaie de se battre avec Gérard Dacheux, notre directeur technique, à ce sujet, de façon à avoir vraiment des éducateurs qui soient formés, de façon à ne pas déformer les enfants. Mmh. Ça, c'est primordial. Et de façon à ce qu'ils puissent acquérir une technicité individuelle au sein d'une équipe après, bien entendu, hein, ça c'est évident.
Mais il n'y a pas de foot quand même, il n'y a pas le foot des grandes villes et puis le foot des petits villages comme on a parfois, parce qu'on voit parfois le dimanche matin hein, des foot des petits villages qui viennent, qui ont des difficultés, qui sont obligés de fusionner, de faire des ententes ensemble.
Bien sûr, mais si, il y a le foot du petit village, ouais. Parce que c'est quand même plus simple, ouais. de laisser son enfant à la limite faire 100 mètres ou 200 mètres pour aller au stade plutôt que de le monter dans une voiture, de l'emmener sur un endroit, d'aller le récupérer, etc. Donc les enfants maintenant, et les parents surtout, jouent sur le temps et sur les moyens et vont au plus proche hein, la plupart du temps, hein, sans forcément savoir exactement ce qui va être offert à leur enfant. Alors le principal pour les parents et pour l'enfant au départ, c'est quoi? C'est un terrain, un ballon et puis un maillot, une paire de chaussures. Bon, à partir de ce moment-là, effectivement, l'enfant va pouvoir découvrir quelque chose, mais il va vite s'apercevoir effectivement que s'il rencontre une équipe d'un club un tout petit peu plus huppé, il va dire « mince, là j'en ai pris 16 aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup quoi ».
Mmh. Et vous devenir aussi une pépinière de certains bons clubs franciliens, c'est possible? Bon, je sais que certains ont commencé à se rembouiller, sont devenus professionnels.
Ouais. Ah oui, tout à fait. Bah, il y avait avant-hier soir le fils Berkac là, qui était chez nous avec son frère. Ils étaient en train de jouer la baballe au Vieux Moulin. Une pépinière, non, mais par contre, effectivement, on a beaucoup de jeunes qui sont sortis de chez nous et qui ont été faire un tour ailleurs, hein, ouais. Qui sont partis sur Versailles, qui sont partis sur d'autres structures, mais qui sont vite revenus parce que ces grosses structures-là n'ont pas forcément les mêmes envies que nous. Hein. Nous, on a envie effectivement que nos enfants progressent, mais que nos enfants réussissent. Et venir chercher un enfant en lui disant, en lui faisant miroiter différentes choses ou différents postes, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Donc aujourd'hui, les bons éléments, on en a au Football Club de Rambouillet. Et on veut les conserver jusqu'à ce qu'ils puissent éventuellement partir, mais on ne les laissera pas partir n'importe où. Hein. C'est surtout la grande consigne. Et tout à l'heure, Gilles le disait aussi, il n'est pas question d'envoyer les enfants n'importe où. Je veux dire, s'il y a une structure adéquate qui est bien présente et dont on connaît les dirigeants, effectivement, là, on pourra le diriger. Mais bon, il y a des endroits où il ne faut pas aller, quoi. Ça, on le sait.
Les éducateurs, c'est un rôle très important. Vous avez un rôle aussi, et ça, je crois que vous en avez conscience, hein, un rôle d'éducation, un rôle social à travers les vertus du sport.
Il est évident que, de toute façon, je veux dire, comme le disait aussi Gilles tout à l'heure, je reprends un petit peu ses propos, mais c'est vrai que quand on voit nos enfants sur les terrains, on est vachement content quoi, parce que ils sont effectivement pas en train d'aller faire les zouaves dans les rues ou ailleurs, ou aller d'embêter éventuellement les voisins dans les HLM ou dans les cités. Donc c'est vrai que nous, on est là et on les accueille et on leur apprend effectivement différentes choses. La façon effectivement de pratiquer le sport, ça c'est évident, mais je veux dire le respect, moi c'est le grand mot que j'emploie. Et des fois je vais pas monter dans les graves ou dans les aigus pour leur dire quelque chose, je vais juste leur dire à l'oreille tout simplement respect, c'est tout. Et là ils s'arrêtent tout de suite parce qu'ils se disent merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi.
Et justement vis-à-vis d'un arbitre, comment vous comportez, vous, président, vous souhaitez qu'on ne conteste pas les décisions de l'arbitre, même si parfois elles sont difficiles? On sait qu'il y a beaucoup de jeunes, des fois, qui se laissent un peu aller.
Oui, et d'autant plus que maintenant, les arbitres ont des consignes bien précises sur, d'une part, le respect envers leur personne hein, et envers, effectivement, les adversaires. Alors, autant sur le terrain, mais encore plus à l'extérieur du terrain. C'est que aujourd'hui, effectivement, sur le terrain, on se doit et on doit respecter l'arbitre et les décisions de l'arbitre, ça c'est évident. mais également en dehors du terrain, parce que souvent on peut éventuellement passer sur une décision, mais en dehors du terrain, revenir vers l'arbitre en lui disant 2-3 mots, on n'a pas le droit de le faire. Je veux dire, ça, effectivement, on s'applique et on s'engage à respecter cette charte-là qu'on a mis au point également chez nous. Le respect de l'arbitre et du joueur en face, c'est primordial, quoi, c'est primordial.
Et le public, c'est Rambouillet, il est comment? Il est très passionné aussi, très supporter, très chauvin, ou alors, au contraire, bon...
Moi, il y en a peut-être qui vont rire quand je vais dire ça, mais on a le Muppet Show, nous, hein, dans la tribune,
bon.
qui sont là, effectivement, depuis 35, 40, 45 ans. Hein. Toute la rue du Vieux Moulin, et ben, effectivement, ils sont tous présents et bien présents. Même des fois un peu trop présents, parce qu'ils aiment bien causer à l'arbitre, par contre, ça c'est évident.
Oui.
Mais c'est vrai que sur des matchs intéressants, on a un public qui est assez sympa. Oui. Mmh. Alors, on fait beaucoup moins de bruit qu'au rugby, ça c'est sûr. Parce qu'on n'a pas les mêmes tribunes non plus, hein. Elles sont beaucoup plus chaudes là-bas. Les nôtres sont très très froides, donc on est obligé de se serrer et on ne peut pas trop crier, quoi.
Alors, les championnats sont terminés, hein. Vous êtes finalement satisfait de cette saison?
Oui,
aussi bien pour l'équipe Fagnon que pour vos jeunes?
Alors bon, le championnat effectivement est fini, il nous reste cet après-midi un match de Coupe de France dont j'invite tous les Rambolitains et autres Sarrois, Perrotins et Pugnéens à venir effectivement donc à 16h15 à la rencontre de seniors qui nous opposent à l'AS Meudon, un club d'excellence, hein, donc en deuxième tour de Coupe de France, hein, la vraie Coupe de France, hein, pas la Coupe du Chapeau. Et sinon, donc, au niveau du championnat, effectivement, on a trois montées, hein, qui sont d'une part sur les 18 ans, donc on peut comparer aux juniors au rugby, donc les 18 ans qui est effectivement notre petite source d'alimentation pour les équipes seniors, qui vont retrouver le niveau de l'excellence, hein, donc ça c'est très intéressant. Nos deux équipes vétérans ont fonctionné du feu de Dieu cette saison, avec deux montées fantastiques, hein, donc avec une deuxième équipe qu'on a créée cette année qui monte. Et pour le reste du championnat, on va avoir donc effectivement l'équipe Fagnon, l'équipe première qui a fait une saison demi-teinte, qui va terminer milieu de tableau. L'équipe réserve, par contre, sur deux matchs, rate la montée, puisqu'on finit sur le podium, mais on est troisième, il y a deux montées. Et puis, les 15 ans finissent deuxième aussi, avec aussi tout au long de la saison, une première place qu'on a briguée pendant quelques temps. Et donc, les 13 ans finissent milieu de tableau, donc avec des résultats tout à fait honorables.
Et puis c'est un jour important aussi, parce que je crois que vous avez un dimanche bien rempli, bien chargé et bien fourni. Hein,
et oui, là j'ai coupé un peu parce que...
Vous allez nous quitter et après direction le stade.
Voilà, direction le stade, il y a le barbecue qui nous attend pour le tournoi débutant avec les merguez.
Ouais.
Donc il est évident que là...
Arrêtez, vous tous venir.
Non, mais c'est bien, qu'ils viennent.
Bon, alors, on prépare déjà la prochaine saison, Patrick.
Bien
on
sûr.
Peut déjà venir se renseigner, s'inscrire, ou alors on va attendre, comme pour le rugby... le forum un peu plus tard.
Alors on prépare déjà la saison puisque effectivement le secrétariat est ouvert tout le temps. Il sera fermé juste les trois premières semaines de juillet. Mais sinon donc Jean-Pierre Le Goff au secrétariat du club, donc au téléphone je vais le donner, hein,
oui,
01
oui.
30 59 25 44 prend déjà des renseignements et donne déjà effectivement des informations sur les futurs licenciés. Moi j'ai eu également par mail également des demandes. Donc le mail, on peut le retrouver sur le site de la fédération. Il y a un lien qui nous emmène sur les différents clubs aux alentours, Rambouillet et autres. Et donc on peut trouver l'adresse email du responsable de la catégorie et autres. Donc on peut effectivement le préparer maintenant. Nous, on n'a pas de quota, on n'a pas de limite. Je vais dire après, effectivement, en fonction des enfants, eh ben, on s'adaptera. Il y a toujours effectivement des bonnes âmes qui seront présents au mois de septembre pour nous donner un coup de main, pour encadrer. Donc de toute façon...
Enfin, vous n'allez pas refuser des jeunes, quoi.
Non, on ne refusera personne. On refusera personne. De toute façon, je vais dire, nous sommes une association, nous ne sommes pas une entreprise. Donc une association a pour but... effectivement de recevoir et de permettre à chacun de venir pratiquer le sport qu'il désire. Donc de toute façon, on ne mettra jamais un enfant dehors sous prétexte qu'on est trop nombreux. C'est pas possible.
Non, parce que malheureusement, dans le passé, des clubs ont été obligés de refuser du monde.
Oui, mais pour différentes raisons, parce qu'ils ont peut-être éventuellement un qualitatif avant d'un quantitatif. Alors, c'est sûr qu'on préfère avoir du qualitatif, ça c'est tout à fait normal, puisque pour essayer d'avancer, il faut quand même des éléments de valeur. Maintenant, la quantité va nous faire effectivement qu'on va pouvoir trouver des gens. Hein. Je veux dire, si on n'a pas de quantité, on ne pourra pas faire de choix. Donc il nous faut quand même malgré tout. Et les clubs qui ont fait ça effectivement précédemment, bah, je pense qu'ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui, parce que je ne pense pas qu'ils aient de retour sur investissement à ce niveau-là.
Et pour l'équipe Fagnon, là aussi, il y a un secteur de jeu à améliorer.
Oui, bon, on pêche toujours en attaque.
Un chasseur de buts.
Tout à fait, oui. Voilà. Il nous faut un goléador. Ouais. Il nous faut un goléador. Notre goléador est parti la saison dernière jouer à Gallardon. Il termine meilleur buteur là-bas. Mais bon, c'est vrai qu'en en Eure-et-Loire, il joue un tout petit peu moins vite. Les terrains sont un peu plus gras. Ils n'ont pas l'avantage d'avoir un site comme le Vieux-Moulin, ça c'est évident. Donc c'est vrai qu'on recherche effectivement des pointes devant pour marquer ces buts décisifs. Quoi. Ça c'est important.
Ah bah vous parliez de votre stade, il y a quand même maintenant, vous faites des envieux avec votre terrain. Hein.
Ah, j'espère bien, hein, oui, tout à fait. Ouais. C'est un billard comme on dit chez nous. Par contre, il faut être vigilant sur certains appuis et sur certaines exercices techniques. Mais sinon, effectivement, c'est fantastique de jouer chez nous. D'ailleurs, ça nous pêche un peu parce que quand on joue à la maison, on a un jeu technique qui est fantastique au niveau du contrôle et du passage de la balle. Mais dès qu'on va sortir un peu de nos sentiers battus, qu'on va trouver effectivement des terrains boueux, herbeux, stabilisés ou autres, là, par contre, on peut pas pratiquer le même jeu. Et c'est vrai qu'on a pêché un peu avec ça. C'est vrai qu'on était assez bon à domicile. Et un petit peu moins bon à l'extérieur.
C'est l'avenir, les terrains bientôt dans 15-20 ans
Oui, j'étais à l'Assemblée Générale du District la semaine dernière et le Conseil Général en parlait. Ils vont débloquer une somme astronomique justement en plus. Je crois qu'ils débloquent là à peu près 500 000 euros pour pouvoir permettre aux communes et aux clubs de s'équiper de ces terrains-là. Parce qu'il est évident que de toute façon, la sécheresse, la pluie, la boue et autres, c'est pas fait pour arranger le jeu du football. Je veux dire, c'est bien pour le rugby, c'est bien pour se faire des bons plaquages, parce que là, on est amorti. Mais nous, il nous faut effectivement une surface des plus lisses possibles, de façon à pouvoir avoir un jeu fluide et intéressant, quoi, de façon à avoir un spectacle.
Très bien, alors on va aussi passer au club voisin que vous connaissez, hein. C'est le FC Drouet, avec celui qui avait été aussi avec nous l'année dernière sur le mondial, Jean-Paul Le Garchois. Oui. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien.
Ouais. Alors la saison, vous, beaucoup moins positif qu'à Rambouillet.
Oui, c'est moins positif qu'à Rambouillet parce que notre équipe qui était en excellence de dimanche matin m'a va descendre. C'est pas forcément mérité parce qu'on avait vraiment le niveau du groupe, mais j'y ai intégré à peu près 8 jeunes de moins de 19 ans. Donc un jeune, ça court vite, mais ça sait pas mettre le pied sur le ballon. C'est un petit peu ce qui nous a fait un peu défaut. Si la colonne vertébrale n'a pas trop bougé, tout ce qui était sur les côtés joue très vite, mais sur les replis défensifs et de mettre le pied sur le ballon, bon, ça manque un peu de maturité. Ça nous a coûté quand même pas mal de points. Puis il me manque un peu, comme à Rambouillet, il me manque quelqu'un dans la surface qui me fasse un point d'ancrage et qui savent remiser des ballons ou aller les chercher de la tête quand il faut. Donc ça, c'est vraiment un point qui nous a fait beaucoup de défauts.
Vous êtes combien au FC Drouet? Parce que vous, c'est le foot des petits villages quand même.
Ah oui, c'est le foot des villages.
Vous, c'est justement...
Ah oui, tout à fait. On a deux équipes en chemin du dimanche matin et deux équipes vétérans. Donc à peu près entre 90 et 92 licenciés.
Ils viennent d'où? De beaucoup plus loin que
Alors, il y a beaucoup de gens d'Orphin, d'Orsemont. Ouais. Ben, Drouet, c'est vrai que c'est le jumelage de ces deux communes. Il y en a à peu près 6 ou 7 personnes démancées. On a quelques déçus de Rambouillet, mais ça fait partie de la logique des choses. Hein. Ils vont d'un club à un autre. Suivant, il y en a certainement qui sont partis de chez moi pour aller chez lui. Donc, je ne sais pas, non, je ne suis pas très sûr. Et puis là, l'année prochaine, je vais encore avoir une équipe qui va être un peu plus solide parce que je vais récupérer un peu tous les anciens joueurs de Gazan d'il y a 3 ans qui jouaient en championnat à 7 sur des mini-terrains à 7, mais ça ne leur plaît plus. D'accord. Donc, comme ils ne veulent pas rejouer l'après-midi parce que ce sont des gens qui ont 26-27 ans, qui sont pères de famille... Donc la femme veut bien qu'ils jouent au foot, mais le dimanche matin, de façon à avoir l'après-midi pour eux. Donc je vais avoir une équipe qui va être assez costaud l'année prochaine, qui va peut-être nous pouvoir faire qu'une année en purgatoire. Bah, déjà, ça fait depuis 4 ans, on fait 2 ans, un an. Donc j'espère que ça va continuer. Je ne suis pas sûr. Mais enfin, pour moi, ça aussi, ça sera ma dernière année. Alors,
On peut aussi vous rejoindre. Hein. Ce n'est pas trop tard. On peut déjà,
chez nous,
déjà venir s'inscrire, même dès maintenant.
On peut. Hein. Je fais entraîneur et secrétaire. Hein, donc allez. Si je laisse mes coordonnées, c'est du direct. Alors, c'est le 06 79 37 86 16. Donc pour ceux qui veulent jouer en dimanche matin, donc ça sera en première division l'année prochaine, je suis désolé, et en troisième pour la deuxième équipe. Donc les matchs à 9h30, il n'y a qu'un seul entraînement, c'est le mercredi, parce que je ne peux pas être disponible tout le temps, étant éducateur pour les Benjamins au Perret également.
Oui, on parlera de la situation du Perret tout à l'heure. Oui. Et alors, au niveau de votre terrain, comment ça se passe?
Alors nous avons deux terrains en herbe. Orphin, qui est un terrain qui est drainé et sablé de temps en temps, donc celui-là est à peu près correct. Orsemont, donc, il fluctue en fonction des intempéries et de la glaise de la région. Donc en été, il est extrêmement agréable à jouer, mais dès qu'arrive novembre, décembre, on ne fait pas du surf, mais on n'en est pas loin. Donc, c'est vrai qu'on joue...
Enfin, avoir le moral quand même. Hein.
oui. j'ai pas d'autre solution. J'avais, parce que vous parliez des terrains comme celui de Rambouillet, que je trouve absolument fabuleux, hein, parce qu'il y en a plusieurs comme ça, il y en a à Plaisir, il y en a un petit peu partout. Mais je crois que le coût, c'est 800 000 euros, non ? C'est ça, non ? Ouais. Alors la commune d'Orsemont avec 900 habitants, je pense qu'on va mettre à plat les finances de la commune pour quelques temps. je vais même pas essayer de le demander en mairie.
Alors, il y a des tournois quand même, le restant du temps
Les jeunes vont faire quelques tournois. Ouais.
La saison est finie là ou alors...
La saison, elle s'est terminée le 3 juin, quoi, je crois que pour tout le district, hein, vous aussi, non, je crois. Donc, elle s'est terminée le 3 juin. Et puis, les jeunes vont participer à deux tournois. Et là, j'ai à peu près 3 ou 4 matchs amicaux que j'ai pris de façon à voir. Il y a des jeunes qui sont venus chez moi. Donc, je les ai vus évoluer à l'entraînement, mais je vais évoluer dans un contexte un peu match.
Ouais. Quel est le prix d'une licence ou d'une cotisation?
L'année dernière, elle était de 85 euros. Cette année, je pense qu'elle va passer à 87 ou 88.
Or, c'est pareil, pour vous, il y a aussi cette culture football, cet aspect de la vie. Hein, on doit respecter les règles de l'adversaire. C'est aussi important, le fair play dans le foot, même au FC Drouet.
Je suis assez ténu là-dessus parce que je pars du principe qu'on peut jouer au football quand il manque un ou deux joueurs, mais on ne peut pas jouer quand il manque un arbitre. Ouais. Donc j'essaye de les faire respecter et quand j'ai, comme ça s'est passé il n'y a pas très longtemps à Croissy-sur-Seine, un joueur qui pète les plombs, il sort.
Ah oui, c'est arrivé?
Oui, il n'a pas accepté deux ou trois décisions de l'arbitre, il a commencé à prendre du jaune, n'importe comment, la fois après ça aurait été certainement du rouge et ses propos étaient relativement inadmissibles, donc surtout sur un arbitre qui faisait correctement son boulot.
Oui, c'est vraiment le rôle d'un éducateur, vous estimez, que de sortir un joueur comme ça.
Moi, j'ai joué assez longtemps au football, j'ai joué jusqu'à 52 ans, j'ai jamais même insulté mon adversaire et dans toute ma vie, j'ai pris...
Vous avez pris des cartons ?
Un seul rouge dit à l'arbitre qu'il était ivre. Et je ne me trompe pas de beaucoup parce qu'on se demandait par rapport aux décisions prises, sa façon d'agir. Donc, j'ai pris un rouge et c'est la seule fois où j'ai pris un rouge de ma vie, j'ai jamais pris de jaune.
D'accord. Patrick, combien de rouges vous ? Aucun ?
Aucun, absolument aucun. Mais j'ai fait un break, moi, de 10 ans, donc c'est la période où j'étais un peu fou, donc c'est pour ça que j'ai arrêté le football. Je préférais faire autre chose.
Ouais, vous abondez complètement dans l'essence de Jean-Paul. Hein.
Bah, c'est évident, parce que de toute façon, en plus, ça nous coûte, d'une part, ça nous coûte de l'argent, les sanctions dans le district des Yvelines, puisque nous sommes effectivement donc réprimandés financièrement, à 8 euros le carton jaune, et 24 euros le carton rouge. Donc au bout d'une saison, effectivement, ça peut faire une somme assez coquette. Mais sans parler effectivement d'argent, je veux dire, c'est vraiment le respect
de l'arbitre. Et puis il y a la notoriété d'un club après qui en pâtit totalement, l'image de marque.
Complètement, je veux dire, il y a aujourd'hui des clubs qui vont finir à plus de 70 cartons sur la saison, sur une seule équipe, hein, donc en sachant qu'ils font en moyenne 18 matchs, donc vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Et c'est vrai que ça, on n'a pas le droit, hein, je veux dire, d'autant plus qu'effectivement, comme le disait notre collègue, on peut être également réprimandé au niveau des points, donc ça nous enlève des points au niveau du classement, et ça peut nous obliger à descendre en division inférieure rien qu'à cause des cartons. Hein. Donc il y a vraiment, alors bon, moi je le pratique effectivement à Rambouillet en tant que président et au niveau des éducateurs. Ça se pratique aussi au FC Drouet et j'espère que ça se pratique de plus en plus ailleurs. Mais c'est le mot d'ordre de toute façon, hein, de la Fédé, des districts et des présidents de club. Si les présidents de club n'ont pas compris ça, je pense qu'il faut qu'ils aillent faire autre chose tout de suite. Hein, c'est ça, c'est clair. Hein.
Tiens, ça me fait penser, il y a les finales des Coupes des Yvelines, hein, ce week-end là, du côté d'Elancourt.
D'Elancourt, oui, absolument.
Alors pour Rambouillet, on n'a pas parlé du prix de la licence et de la cotisation, Patrick. Alors, est de combien ?
Il y a plusieurs tarifs chez nous, mais il y a un tarif donc à 100 euros pour les débutants. Ensuite, nous passons à 120 pour le reste du club, jusque donc du poussin jusqu'au senior. Et nous sommes à 100 euros également sur la catégorie vétéran. Voilà. Donc, dans ce prix de cotisation, il y a tout un tas d'éléments. Hein. Il y a bien sûr les éducateurs, il y a le prix de la licence, il y a tout ce qu'il peut y avoir au niveau et éventuellement donc assurance obligatoire, bien entendu. Et puis les équipements fournis lors des compétitions sont fournis bien sûr par le club, du haut jusqu'en bas.
D'accord. Tiens, Jean-Paul, je voudrais qu'on reparle un peu quand même de votre autre activité au Perret. Pourquoi avoir cumulé comme ça de fonctions ? C'est facile d'avoir une identité dans nos clubs ?
Oui, c'est pas très difficile. D'abord parce que je ne travaille plus depuis 4 ans. Donc je suis retraité de la fonction publique.
Ouais.
Bien d'ailleurs. Et je ne veux pas non plus rester sans rien faire chez moi. Donc, et puis j'ai encore une autre activité. Je suis bénévole au Festival Interceltique de Lorient où je m'occupe de tout une gestion de bar. Oui, je suis Vannetais, ma femme est lorientaise. Non, il fallait que je m'occupe. J'aime bien les enfants. Et puis la catégorie Benjamin, c'est la catégorie où on commence à sentir le football. C'est là, on commence à avoir un peu de technique et on est capable de commencer à jouer dans ce que j'appelle le jeu équilibré, le jeu en équipe, où on commence à avoir les notions de collectif qui arrivent. Alors donc je me, puis le club du Perret, j'y ai joué pendant 12 ans en vétéran. J'ai jamais joué à Rambouillet d'ailleurs.
Alors, c'est un club qui avait fusionné avec Gazeran au niveau entente. Je crois que ça va s'arrêter, ça.
Alors,
c'est pas trahir un secret. Hein.
Je crois non, on ne trahit pas de secret. Je crois que le club va carrément changer de nom, je crois.
Oui.
Donc, il y a eu une assemblée générale qui a été faite pour ça, où on a choisi un autre nom. Et d'ailleurs, je ne pourrais même pas vous dire ce qui a été rajouté à au Perret.
On a même eu le président de Poigny qui était là il y a 15 jours, qui a fait un appel pour créer un grand club de tous les petits villages. Et avec Gazeran.
Oui. Ouais, parce qu'il voudrait fusionner tous les clubs.
C'est
vrai que dans des
villages.
Bon, Rambouillet, c'est une structure un peu différente. C'est une grande ville, il y a 25 000 habitants, puis il y a des jeunes. Mais chez nous, à Drouette, ça commence à être galère pour recruter les gens. Ça devient difficile. Dans des petites communes, sachant qu'il y a des clubs tout à côté, il y a un club à Poigny, il y a un club un tout petit peu plus loin, je crois que c'est Épernon. Donc on trouve des clubs un peu partout, trop éparpillés, et il faut un trop grand nombre de joueurs pour assurer la vie de chaque club. Et je crois que c'est trop difficile. Déjà, nous, on avait fusionné, mais je pense qu'une autre fusion sera peut-être pas à l'ordre du jour, mais... Non, ça devient difficile. C'est
vous seriez prêt aussi, vous, à rejoindre comme ça un pôle de d'autres petits villages pour faire ce grand club de la communauté?
Maintenant, il faut voir comment c'est géré. Parce que lorsque je regarde les fusions qui se sont passées précédemment, beaucoup n'ont pas tenu. C'est ce que nous dit le district. Drouette, c'est une des seules fusions qui est tenue correctement. Tous les autres ont explosé. Gazeran a explosé. S'il y a Ably-Sainte-Même là, qui a l'air de tenir, mais enfin, Sainte-Même, c'est très petit par rapport à Ably. Donc c'est surtout.
Et Cernay-Bonnel chez les jeunes, je crois.
Alors Cernay-Bonnel, c'est chez les vétérans, c'est chez les jeunes, c'est pas chez les seniors. Bon, c'est un petit peu bizarre. Et puis il y a peut-être Chevreuse aussi, mais enfin le FC Valais 78, c'est vrai que c'est un.
Il y a Chevreuse pour le rugby et le FC Valais pour le foot, voilà, c'est simple.
Donc le FC Valais, ça regroupe d'autres.
Et dans l'Essonne, il y a Bruce-Limour qui a fusionné.
Bon, c'est vrai que non, trop, dans des villages trop petits, c'est difficile à trouver des joueurs.
Et vous, votre public alors?
Alors, je ne sais pas si on peut les compter sur les doigts dès demain, le dimanche matin. Je crois que la plus grosse galerie qu'on a, c'est quand on a les Portugais qui viennent de Croissy-sur-Seine ou je ne sais pas où ils viennent. Donc, on arrive à peu près à avoir 20 personnes. Mais alors, je ne vous parle pas quand c'est le mois de novembre qu'il pleut. La galerie est très, très réduite. C'est zéro.
Très bien. Allez, on marque une petite pause musicale, un petit break musical. Et puis, on repart sur les terrains de foot ensuite. On y va. Allez, on va parler maintenant de la saison nationale et internationale. Ça se termine aujourd'hui du côté de nos amis espagnols. Sinon, pour le reste, c'est les vacances un peu partout. Comment vous avez trouvé à tour de rôle ce championnat, Jean-Paul? D'abord, championnat de foot.
Je dirais championnat
intéressant, ça vous a passionné?
Un peu plus passionné cette année que l'année dernière. L'année dernière, j'avais beaucoup l'impression de m'ennuyer devant mon Canal+, pour ne pas citer la radio. Celui qui diffuse les matchs, mais c'est vrai que je m'ennuie énormément. J'ai même vu à ma femme plusieurs fois de proposer de sortir parce que devant l'écran, je m'emmerdais royalement. Donc cette année, un petit peu plus. Puis bon, j'ai mon équipe favorite qui était montée en L1, mais je ne les ai vus que trois fois. C'était les fameux Merlus. En espérant qu'ils se maintiennent à ce niveau-là l'année prochaine. Mais comme c'est un petit budget de 20 millions d'euros, ce qui est une goutte d'eau lorsqu'on pense aux autres budgets, que ce soit lyonnais, marseillais ou parisien. Non, le football, le problème, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne disputer un peu plus le titre à Lyon.
Oui, parce qu'on va rappeler...
Parce que maintenant, on dit, il y a Lyon et puis
et
maintenant, on va voir qui va être deuxième. Je pense que c'est à peu près ça. Sur ce que je vois des transferts qui se passent, on va encore se dire, tiens, il va y avoir Lyon qui va être deuxième. Alors, cette année, c'est Marseille qui a eu la palme, relativement méritée. Je ne suis pas franchement un pur Marseillais, mais ils n'ont pas trop mal joué au ballon. Maintenant, ils perdent quelques joueurs, donc ça va être aussi difficile pour eux. Et puis, il y a le ventre mou derrière, où on a quelques matchs assez soporifiques. J'ai l'impression qu'en France, maintenant, on joue pour ne pas perdre. On joue pas pour montrer du football, on joue pour ne plus perdre.
Mais des fois, ça paye, on l'a vu avec Bordeaux en Coupe de la Ligue.
Bon, maintenant, il va aller à Monaco et il a dit qu'il allait être offensif. J'ai lu ça dans France Football. J'ai dit, tiens, c'était vraiment un scoop. Parce que Ricardo offensif, c'est vraiment un scoop.
Par exemple, une équipe comme Sochaux qui gagne la Coupe de France, ça
Sochaux, je trouve que c'est
ça
pas mal.
Plaît,
oui, ça me plaît. Puis je trouve que Sochaux a un bon fond de jeu. Et puis, ils avaient un joueur que j'avais évolué à Lorient, moi, absolument superbe, qui s'appelle Ziani.
Ah oui.
Moi, ce joueur-là m'a fait vraiment rêver. J'en ai vu quelques-uns à Lorient, pas beaucoup, mais il fait partie des deux ou trois joueurs lorientais que j'ai vus qui vraiment font rêver le public. C'est vraiment un très, très grand joueur. Mais je trouve que Sochaux a une bonne assise footballistique. Il joue bien en ballon, c'est bien déployé, c'est bien écarté, c'est assez plaisant à voir.
Et des malheurs nantais, comment vous interprétez
Je pense que c'est un tout. Je crois qu'avant que Landreau, bien avant que Landreau parte au PSG, il y a 2-3 ans, il disait déjà que le club courait à sa ruine, rien que déjà par la vente à Dassault, puis au fameux président Roussillon, qui n'était pas... Enfin, disons, je n'ai pas l'impression qu'il n'était fait pour le football. Dassault, je crois qu'il venait faire des affaires, mais avec un club de football, ce n'est pas ce qu'on fait le plus. Et puis maintenant, Nantes est en D2, en L2. Il faudra remonter. Ce n'est pas très, très facile quand on voit comment joue la L2.
Oui, parce que c'est pareil, la L2, le niveau est monté et progressé.
Le problème de la L2...
On parlait de rugby tout à l'heure où ça monte, mais oui, c'est pareil pour la L2. Hein.
Moi, je veux dire, j'ai vu au moins 100 ou 200 matchs à Lorient. Lorsque les équipes viennent à Lorient, il y en a 9 dans la surface de réparation. Il y a un joueur qui se trouve entre les 18 mètres et puis le bord du rond central pour transmettre. Et il y a un joueur devant puissant qui part et qui court.
Ouais,
donc,
ça, c'est
Un peu désolant à voir. Il y a quelques équipes qui jouent bien en ballon, mais beaucoup viennent pour défendre et jouent le coup.
Ouais, c'est un peu que dans tous les sports co, hein, ça commence d'abord par une bonne défense. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu le mot d'ordre des entraîneurs maintenant.
Ben, moi, j'aimerais bien que ça soit souvent des belles attaques.
Mais
ça me plairait beaucoup plus.
Bien sûr.
Ouais, je suis un peu déçu. La L2, c'est un peu décevant, oui.
Ouais. Patrick, même sentiment partagé, cette suprématie lyonnaise et puis ce football peut-être un peu trop défensif. C'est vrai quand même qu'on marque, on est le championnat en France, on marque le moins de buts, hein, et où le buteur est celui qui marque le moins de buts, le meilleur buteur du championnat.
Oui, la suprématie lyonnaise, je pense que malgré tout, effectivement, il ne faut pas le prendre d'un côté négatif, parce que si Lyon a réussi à y arriver, pourquoi les autres ne le font pas? Jean-Michel Aulas est la bête noire du football. Pour quelle raison? Parce qu'il a réussi. C'est un peu dommage, quoi. Donc, quelque part, de se dire ça. Donc, il y a des clubs derrière qui pourraient exactement aussi faire aussi bien que lui, avec un entourage, effectivement, peut-être beaucoup plus sain et serein, et avec une stabilité. Je veux dire, Aulas, depuis combien d'années il est à Lyon? Il est toujours là, il l'a dit, il l'a fait, et il le fera. Donc je pense que c'est quelqu'un, effectivement, qui se donne les moyens, et je pense que les autres présidents n'ont qu'à se mettre un petit peu à sa hauteur, et ils peuvent y arriver. En ce qui concerne maintenant, après, les schémas de jeu, alors c'est toujours intéressant de les analyser. C'est vrai que, bon, moi, en tant que président et éducateur, c'est vrai que j'essaie de rechercher un petit peu les analyses de match. Je ne regarde plus les matchs comme avant, où effectivement j'essayais d'attendre les buts, parce que c'est vrai qu'il y a des fois où on peut attendre 90 minutes et pas en voir un seul. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est le positionnement des joueurs, la façon de jouer, la façon de se déplacer. Et j'ai eu la chance, moi, d'aller trois fois cette saison au Parc, de voir certains joueurs. J'ai vu Pedretti, par exemple, on parlait tout à l'heure de Sochaux. J'ai vu Pedretti courir pendant 90 minutes dans un carré qui doit faire à peu près 25 par 25, tout simplement, et qui touchait un nombre de ballons fantastique et qui les remettait très, très bien derrière, quoi. Donc ça, c'est des choses hyper intéressantes à voir. Et je pense qu'il faut regarder les matchs de foot un petit peu comme ça maintenant, et non plus de la même façon qu'avant.
Oui. Et pour les malheurs de Nantes, par exemple, aussi, ça vous inspire un commentaire la culture nantaise, l'école nantaise, qui c'était comme référence il y a quelques années encore.
C'est toute une question, en fin de compte, d'entourage. Hein, je veux dire, moi, je peux comparer Nantes un petit peu à Sochaux, parce que c'est vrai que Sochaux est présent également depuis très longtemps en Ligue 1. Moi, à l'époque, j'ai connu Sochaux quand j'étais en Allemagne avec mes parents, parce que mon père était militaire de carrière, et j'ai fait toute mon enfance là-bas. Quand j'avais 13-14 ans, mon père, d'ailleurs, voulait me mettre au centre de formation là-haut. Et ça, c'est pas fait. Et bon, maintenant, Nantes, effectivement, c'est toute une circonstance d'entourage, de bienfaiteurs ou dits bienfaiteurs qui voulaient effectivement faire de ce club-là quelque chose d'autre chose. Ils se sont plantés, tant pis pour eux. Et je pense effectivement que ça va servir à repartir vers l'avant. Hein.
Les malheurs du Paris Saint-Germain, par exemple.
Alors, les malheurs du Paris Saint-Germain, c'est, pour moi, ça m'est complètement égal.
Oui.
Par contre, la seule chose qui est intéressante, c'est que malheureusement, le fait qu'il y ait eu ce grave incident, on va pas le rappeler, mais ce grave incident qu'il y a eu à la sortie de ce match-là, ça a fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain, parce que moi j'y suis allé avec les enfants, j'y étais avec le club. On a été sollicité deux fois cette année.
En tant que, vous avez été ramasseur de balles.
Ramasseur de balles. Avec la catégorie 15 ans, hein, où donc on était présent dans le stade avec en plus donc une centaine d'adhérents du club. Et on a fait également le challenge de l'offensive avec la catégorie 13 ans, à la mi-temps d'un match également. Mais je veux dire, on a senti dans le parc, malgré tout, une ambiance qui avait complètement évolué. Et je pense que là, le mal a fait du bien.
Oui. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience, d'après vous, de la part de la plupart des supporters.
N'importe comment, elle est obligatoire quand il y a un drame de ce genre. Ouais. Mais il était vrai aussi qu'il y a quelques années, on n'allait pas au parc par plaisir voir un match. On avait des craintes à la sortie, alors que maintenant, on y va un petit peu plus par plaisir. Moi, j'y ai été trois fois cette année. Bon, je suis déçu d'avoir vu des piètres matchs. C'est un petit peu le dommage. Maintenant, depuis que Le Guen est revenu, je pense qu'il a redonné la confiance à certains autres joueurs. Je pense qu'il y a un petit mieux depuis que Le Guen est revenu. Bon, maintenant, c'est... Et puis au niveau public, on retrouve un peu l'ambiance d'un stade de football, quoi. Des gens qui supportent leur équipe. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas la violence quand l'équipe s'est mal comportée ou a été battue.
Ouais. Alors justement, il y a eu quand même une saison assez difficile au niveau de la violence. Il y a eu beaucoup de violence un peu partout, dans tous les stades, cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'éducateur ?
Alors, le problème de la violence, je pense que c'est le problème de l'exutoire. Les gens pensent que dans un stade de foot, maintenant, ils peuvent, disons, évacuer tout le stress, la violence qui est en eux. C'est un petit peu dommageable, on le voit beaucoup aux Pays-Bas, c'est assez grave, même très grave, parce que je crois qu'ils ont détourné le train pour le match Ajax-Feyenoord, ils ont détourné le train pour pas que les spectateurs d'Ajax puissent aller jusqu'à Rotterdam, donc c'est quand même assez grave. C'était cette année ou l'année dernière, hein, je m'en rappelle plus.
Non, c'était...
C'est passé il n'y a pas très longtemps.
Ouais, c'est ça, juste quelques semaines, je crois, après les incidents au parc.
Bon, chez nous, c'est pas non plus, on a des stades où c'est pas fantastique. Moi, j'ai assisté pendant mes vacances à des matchs en Turquie, c'est assez chaud, c'est même extrêmement bizarre. L'Angleterre, a réussi à gérer son problème de violence, qui était extrêmement grave aussi, qui était très... Ils ont réussi à le gérer chez eux. Parce qu'encore à l'extérieur, leurs spectateurs arrivent encore à mettre pas mal de cirque. Et puis, on a aussi d'autres pays comme la Grèce où c'est très, très difficile. Alors, quoi faire ? Alors, c'est vrai que la sanction au club, le club s'en plaint parce que le président n'est pas toujours...
Il faut
toujours
monter un peu trop la pression, on le voit encore sur certains matchs des fois.
Oui, sur certains
matchs. Des déclarations parfois un peu, qui font monter un peu la mayonnaise, quoi, comme on dit.
Bah oui, il y a beaucoup de présidents provocateurs qui passent par certaines phases. Ils pensent qu'en faisant monter la mayonnaise, comme vous dites, ça peut... Je pense pas qu'un spectateur en est là, quoi. Moi, je veux dire, moi, quand je vais voir un match de football, même si je suis très, très féru d'une équipe, elle a gagné, c'est bien, elle a perdu. Ouais. Il existe aussi un mot qui s'appelle le football et le jeu. Donc, dans l'ensemble du jeu, où on peut avoir le contexte du pas de chance, ça arrive également. Donc, c'est pas forcément dramatique.
Ouais, Patrick, vous, le président et l'éducateur que vous êtes, comment vous avez donc réagi à cette année un peu difficile, quand même, au niveau de la violence dans les stades ?
C'est vrai que c'est pas simple parce que on se demande des fois pourquoi elle déborde, pourquoi on arrivait là, pourquoi à la limite tant de mauvaises choses. Des fois, il suffit d'une bêtise, un joueur qui prend un coup et le public effectivement s'en mêle et il y a embrasement en fin de compte dans une tribune, donc embrasement verbal et puis on y arrive aux mains. Donc, mais ça effectivement c'est un petit peu tous les médias aussi qui font beaucoup de bruit là-dessus. Le moindre petit souci est multiplié par x pourcentage. Et bon, le gamin, il dit, tiens, c'est arrivé dans ce club-là, pourquoi moi, j'irais pas faire effectivement la même chose dans le mien, hein, effectivement, ça c'est sûr.
Par exemple, le coup de tête de Zidane, vous avez eu du mal à le gérer ? Non, mais parce que c'était un problème pour un éducateur aussi de...
Parce qu'il y a eu un coup de tête avec Zidane ? Je me souviens plus. Il a fait une très belle carrière.
Oui, c'est vrai. Ah, mais la finale, des enfants qui veulent parfois s'identifier à ces stars, ça peut aussi poser problème parfois.
Eh bien, on a la chance, effectivement, je ne l'ai jamais entendu durant la saison. Pourtant, je traîne dans toutes les catégories. Et quand on entend parler de Zidane, c'est surtout la roulette.
Heureusement.
Et c'est surtout, la semelle. Donc, le coup de tête, je pense qu'effectivement, il a été vécu, il a été vu. Les enfants l'ont tous chanté parce qu'il y a eu la chanson qui est sortie après. Ils l'avaient tous sur leur portable. Et puis, ça s'est arrêté là. Mais en aucun cas, je pense que ça a fait du mal, ce coup de tête-là. En aucun cas.
Et par exemple, les crachats d'un joueur comme Barthez,
Ah oui, les crachats, ça, ça c'est évident. En plus, dans les circonstances où il l'a fait, mais bon, je pense que c'est difficile de juger hein, sur l'instant. L'arbitre juge, prend une décision. Alors nous, effectivement, à côté, il y en a qui vont dire bah, pourquoi il l'a fait, l'autre qui vont dire bah, il a eu raison de le faire. Enfin, on peut épiloguer très longtemps. Il n'a pas le droit de le faire, ça c'est une évidence. On n'a pas le droit d'avoir des gestes comme ça dans le domaine du sport. Le sport, c'est fait pour prendre du plaisir et pour tout un tas d'autres valeurs. Ce genre de choses, effectivement, doit être réprimandé immédiatement. Quoi. Je veux dire, si ça doit arriver chez nous et chez moi en particulier, moi je sanctionne, hein, c'est clair. Hein. Je veux dire, c'est même pas de remboursement de licence, il reste chez lui pendant X temps et après on verra.
D'accord. Jean-Paul, bon, vous avez parlé tout à l'heure, hein, vous avez dit que vous avez été obligé de carrément renvoyer un de vos joueurs sur le terrain pour mauvais comportement, mais l'éducateur que vous êtes n'a pas été confronté à ces dérives du monde professionnel et auxquelles les jeunes veulent parfois s'identifier ?
Non. Même encore en senior, ils sont plus ou moins adultes, donc ça vous en sont. Ils polémiquent un peu dans le vestiaire sur des gestes. En Benjamin, je rejoindrai ce que vient de dire le président de Rambouillet. Je n'ai pas entendu un seul gamin critiquer l'acte de Zidane, qui à mes yeux était plus important pour moi, parce que je le trouvais inadmissible et inexcusable, surtout à ce niveau-là. Donc, mais ça, c'est mon propre point de vue. Hein. Et en plus, il pénalisait ses copains pour les 10 dernières
minutes. Ceci dit, c'est vrai qu'avec Patrick, on est d'accord, ça n'enlève pas
l'immense carrière. Non, ça n'enlève pas le talent de ce joueur qui m'a fait rêver devant mon poste de télévision. Ça, je reconnais.
Et qu'encore une icône pour les enfants. Quoi.
Et les enfants ont eu des paroles. Moi, je dis toujours que c'est inexcusable et inadmissible, mais les enfants ne l'ont pas eu.
Ouais, parce que
moi, j'avais une trentaine de Benjamins et les 30 ou 32 Benjamins que j'avais, à aucun moment, il y en a un qui a réprimandé ce geste. Il a simplement dit qu'il était fatigué, il avait de la colère, il a entendu des mauvais mots. Donc, à leur niveau, c'est bien. C'est vrai que ça permet d'encenser la carrière d'un joueur qui a été fantastique.
Alors justement, l'équipe de France a bien géré son après mondial.
Oui.
Plutôt optimiste pour la suite des événements.
Moi, je trouve qu'on a beaucoup de jeunes. On a une équipe qui tient bien le pavé. Le retour d'Anelka, qui après avoir craché dans la soupe, maintenant revient.
Il a été très bon.
Il a mûri. Et puis il a été très bon sur les deux derniers matchs. Moi, j'ai trouvé absolument excellent. Et puis moi, j'aime bien la charnière Makelele Toulalan. Parce qu'il y en a un qui fait du jeu court, l'autre du jeu long. Et je pense qu'ils sont extrêmement complémentaires et très bien. Et non, c'est vrai. J'ai trouvé qu'un peu Malouda était un peu en dessous.
Il a fait tellement de matchs.
Oui, non, je pense que c'est ça, la fatigue de saison. Hein. Abidal, c'est pareil, un petit peu moins présent.
Mais cette osmose entre les anciens et les...
Ah oui, tout à fait. Et puis bon, il y a encore ça pousse derrière. Hein,
oui, mais c'est ça. Ah ouais.
Les moins de 20 ans, les moins de 18 ans, il y a du beau monde encore qui arrive derrière. Non, la France, avec ses écoles de football, a de quoi remettre dans le cheptel.
Hein. Justement, le fait d'avoir Clairefontaine à côté, c'est une chance pour un éducateur ?
Alors moi, j'y vais de temps en temps. Avant, j'y allais beaucoup parce que...
Il y a un super centre médical maintenant.
Oui, d'ailleurs, je ne remercierai jamais le docteur Legal qui m'a soigné deux fois d'une pubalgie où j'ai été opéré deux fois quand même et qui m'a bien remis sur pied et je ne le remercierai jamais assez. Mais j'y étais beaucoup parce que ma fille, sa grande amie dans le monde du football, c'est Laura Georges, qui est le stopper féminin de l'équipe de France. Donc, j'ai assisté à énormément d'entraînements et j'ai pris pas mal de choses. Donc on apprend pas mal de choses quand même. Parce que les filles se déplacent, il y a moins de contacts.
On
y a
eu l'entraîneur des filles qui est venu, l'entraîneur Clairefontaine des filles qui est venu il y a quelques mois.
Avant c'était Elisabeth Loisel, maintenant je crois que c'est un homme. Hein.
Oui. Il est venu et il nous a effectivement parlé de son travail au quotidien avec les filles.
Mais c'est vrai qu'il faut une force de volonté. Moi j'ai bien connu Laura Georges, hein. Il faut vraiment du mental. Quand elle venait à la maison, c'était football.
Patrick, l'équipe de France, hein, c'est vrai qu'elle est sur de bonnes bases, elle a bien géré son après-mondial. Il faudra encore compter avec elle l'été prochain sur l'Euro. Hein.
Ah oui, j'espère bien, il n'y a pas, de raison, même si encore Domenech a ses détracteurs, mais ça, on s'en fout. Ce qu'on regarde, effectivement, c'est ce qu'il nous met comme composition d'équipe et le jeu qui va nous sortir. Quand il nous met Nasri aujourd'hui, je pense qu'il a été le chercher et il ne s'est pas trompé. Moi, je suis Marseillais. Hein. Donc, effectivement, des joueurs comme ça qui intègrent l'équipe de France, c'est superbe. Et ça va nous permettre, effectivement, de voir des belles choses, de voir de très belles choses au niveau du jeu, surtout.
Les Coupes d'Europe, alors on parlait du rugby ou pas d'équipe en demi-finale. Cette année, c'était pas non plus très bien pour nos équipes. Très bon, ça risque d'être ça un petit bout de temps quand même. Hein.
De toute façon, la Coupe d'Europe, c'est jamais très simple pour les clubs français. Hein. D'une part, on n'a pas un quota fantastique pour y rentrer, puisque on n'a pas les résultats, donc on n'a pas de quota derrière. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison, moi, on n'arrive pas à jouer sur l'Europe, parce que, je vais dire, quand on prend les championnats à côté, il y a quand même des championnats qui sont très légers. Bon, c'est vrai que si on prend l'Espagne, qui est quand même un super championnat, si on prend l'Italie, où effectivement, on a du beau jeu, et l'Angleterre, je veux dire, tout le reste après, c'est quand même des championnats, bon, l'Allemagne bien sûr, mais tout le reste après, c'est des championnats quand même qui sont un petit peu légers. Donc ça serait quand même, c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas au minimum au quart au quart de finale dans ce type de championnat. Ouais.
Bon. Puis même en UEFA, où quand même le niveau est pas trop relevé, jusqu'au quart de finale, c'est quand même
absolument. Mais c'est vrai que il y a pas forcément l'intérêt UEFA aujourd'hui sous sa formule qui permet de dire bon allez on va essayer de la jouer pour la gagner. Bon, l'aspect financier est pas là, donc c'est vrai que par rapport à une Champions League sur lequel on est qualifié, on touche déjà 15 millions d'euros. En UEFA, il faut déjà passer un certain nombre de tours pour pouvoir prétendre à cette somme-là. Donc effectivement, les dirigeants de club vont pas forcément mettre les mêmes moyens. C'est dommage, c'est vrai que c'est dommage, parce que des rencontres dans les pays un petit peu autres que ceux qu'on a à côté de nous, c'est très sympa aussi. Hein. Ne serait-ce que même pour le joueur, pour son expérience personnelle.
Jean-Paul, pour les Coupes d'Europe.
Oui, difficile. Oui. Pourtant, on offre beaucoup de joueurs aux autres clubs, puisqu'on a grosso modo deux ou trois éléments par équipe qui va jusqu'à la finale. Il y a des clubs qui ont beaucoup d'argent, qui arrivent mieux que nous. Cette année, je crois que Lyon est tombé sur un très très grand rhum sur le match retour. Difficile de faire une belle prestation par une équipe qui a joué à un niveau un petit peu exceptionnel sur un match. Je pense que Lyon aurait joué 10 fois contre Rome, il a gagné 9 fois, mais pas cette fois-là. Je pense que c'est un petit peu... Puis ils ont marqué 2 buts absolument merveilleux. Donc, difficile. Je pensais que c'était l'année chance, mais non. Ils reviendront. Oh là, c'est atteigneux. Hein. Il va bâtir son équipe pour pouvoir progresser. J'espère qu'il y a d'autres clubs qui suivront. Ça va être difficile parce que je crois que maintenant, tout se joue en fonction des joueurs. Puis il faut beaucoup de sous pour avoir de très bons joueurs. Quand je dis beaucoup de sous, c'est énorme. Quand on voit le transfert déjà de Ribéry, je crois que c'est 25 millions d'euros.
Oui, justement, ça bouge là, dans le mercato. Là, cet été,
ça bouge.
Ah oui, aussi bien chez les entraîneurs que chez les joueurs.
Chez les entraîneurs, il y a eu un mouvement de fond que je ne pensais pas,
ça
d'ailleurs.
Ça n'a pas toujours été comme ça.
Avec des gens qui étaient très solidement en place, qui m'ont extrêmement surpris, comme Gilot à Lens, qui a été démis de ses fonctions. Moi, je trouve ça extrêmement surprenant. Ou Banide, à qui on avait promis de rester.
Papin qui s'en va à Strasbourg.
Alors Papin qui a fait une belle prestation, qui était à Strasbourg. Ne vous en faites pas, vous bougez pas du club comme à Banide. Et puis qui se retrouve avec une chaise vide, parce que le banc est pris par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un petit peu désolant, surtout pour ces niveaux-là. Bon, une belle prestation pour Hans, que j'aime bien, l'entraîneur du Mans. Il est un peu spécial, il réunit ses joueurs 2 fois à 2h du matin. Mais c'est un personnage un peu atypique, mais qui réussit. Je pense qu'à Sochaux, il va montrer son talent.
Très bien. Patrick, les transferts, ça bouge aussi pas mal. Donc à Marseille, on va se recoter.
Oui, mais Marseille, pour l'instant, ils sont très soft parce qu'ils n'ont rien recruté. Donc, mis à part 6 joueurs, un de Sedan et puis un de Libourne, ça sera tout à fait. Donc, mais sinon, je trouve que c'est calme pour l'instant, mais c'est le début.
Marseille ou Paris,
on est jusqu'au 30 août pour le mercato, et donc c'est vrai qu'on a encore le temps toutes les équipes ont encore le temps de recruter, ça c'est évident, c'est sûr.
Très bien, tiens, il y a notre ami Jean-Luc Mahury là qui est resté avec nous, l'homme du rugby. Comment il vit, lui, l'homme du ballon ovale, tout ce qu'il entend sur le ballon rond?
Disons que au sujet du jeu, c'est vrai, effectivement, le championnat de France, il perd un petit peu d'intérêt tous les ans, malheureusement. Au niveau européen, c'est vrai que dans les grands pays comme l'Italie, l'Espagne, il y a les 5-6 premiers de chaque championnat qui jouent à un niveau, à mon avis, au-dessus des autres. Mais c'est vrai que la réussite de nos clubs en Coupe d'Europe, elle pourrait être un peu plus élevé, quoi. Quand on en affronte par exemple le 7e d'Italie ou même d'Espagne, je pense qu'on peut rivaliser avec eux, quoi. Je veux dire, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, c'est vrai que au niveau des transferts, les chiffres que vous annoncez, nous on en est loin, parce que on a un garçon comme Umaga qui est venu faire une pige à Toulon pour 350 000 euros. Effectivement, c'est pas du tout les mêmes sommes, mais Dieu nous garde, j'espère qu'on n'ira pas plus loin dans le rugby. Et puis, Peut-être qu'un jour, nos amis footballeurs seront un petit peu plus modestes ou qu'on leur donnera moins de moyens et qu'ils redescendront à des tarifs, je dirais, décents, quoi, parce qu'on ne peut pas... Les gens qui vont au stade, d'aucuns se saignent pour acheter des équipements, des maillots, des écharpes et tout ça. C'est ces gens-là qu'on a besoin d'aider, c'est pas les autres, quoi, je veux dire. C'est... Eux, ils vont plus pour voir un spectacle qui, quelquefois, est d'une piètre qualité. On comprend quelquefois qu'ils soient énervés, quoi, je veux dire. Bon, chez nous, au niveau rugby, on connaît pas encore ça. Bon, l'ambiance dans les tribunes rugby, c'est toujours sympa, mais bon, espérons garder ça encore très très longtemps. La violence, pour l'instant, on en est loin. C'est plutôt des embrassades après, tout ça. Ça chambre un petit peu, bien sûr. Chacun, on a l'esprit clocher, quoi, je veux dire. Mais bon, il n'y a pas de débordement, quoi, je veux dire. Quoi. Moi, je suis allé plusieurs fois voir des matchs du Stade français. Le spectacle que propose Guasini, justement, n'incite pas à aller se battre, quoi, je veux dire. Il incite plutôt à se serrer la main à la fin du match, et puis voilà, quoi. Et puis bon, il faut que le sport reste avant tout une détente, quoi, pour le spectateur, quoi. On n'a pas besoin de stresser comme ça.
Très bien, merci Jean-Luc. C'était le regard du rugby hein, sur le ballon. Ovale, c'était pour faire un peu le lien de ces deux grands sports collectifs dont on a très largement parlé ce matin. On rappelle un numéro de téléphone pour finir cette dernière émission Tribune Foot de la saison, Jean-Paul, pour venir vous rejoindre sur...
Alors donc, le FC Drouette, et alors il ne faut pas oublier, on y joue le matin, donc oui. Les jeunes, il faut se lever. Si on a fait la soirée très dure le samedi soir, ce n'est pas très facile, mais le numéro c'est le 06 79 37 86 16. Venez, vous serez bien accueillis.
Eh bien, merci. Et puis, Patrick, donc, une dernière fois pour rejoindre Rambouillet.
Eh bien, donc, nous, à partir du débutant, à partir de 6 ans, bien sûr, hein, donc, toutes catégories confondues, au 01 30 59 25 44. Voilà.
Très bien, merci messieurs d'avoir été les deux derniers invités de la longue saison de Tribune Foot. Hein. On retrouvera naturellement Tribune Foot un peu plus tard, hein. Ça sera fin octobre, puisque entre temps on aura Tribune Rugby qui viendra dans la foulée de Tribune Sport et accompagner donc cet énorme événement sportif sur notre antenne. Nous on a été ravis en tout cas de passer cette matinée avec vous. On vous laisse avec nos amis de Radio Village et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, merci à toutes et à tous et puis à très bientôt. Bye bye.